Précisément 18h sur France Culture, le journal Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Frédéric et bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les premiers enseignements tirés du résultat du référendum calédonien, un nom couvert par les avertisseurs des indépendantistes qui, à défaut d'avoir gagné, sortent renforcés du scrutin, analyse de Stéphane Robert. Veolia, Engie, Suez, prédation et coup de poker, Veolia a fait une offre mais le manche de la hache de guerre dépassé un peu trop. Explication et la complexité de ce dossier en mérite des explications de Thomas Giraudeau. Enfin, la guerre au Haut-Karabakh, 240 morts selon un bilan officiel livré par les autorités arméniennes. Dernier point de situation que nous a livré la porte-parole de la Croix-Rouge internationale à Erevan. Non à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, l'archipel n'accédera pas à la pleine souveraineté ni même à l'indépendance, moyennant un tassement de ce non, car il y a 2 ans, une majorité plus nette que celle de ce dimanche s'était dégagée pour refuser de quitter le giron français. C'est avec reconnaissance et humilité que le président de la République a pris acte des résultats du scrutin du jour. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir.
Stéphane, avec humilité et pour cause, car avec 53% de non contre 56% il y a 2 ans, le camp indépendantiste indéniablement monte en puissance.
Oui, ce résultat beaucoup plus étriqué en faveur du non qu'en 2018 est presque vécu comme une victoire par les indépendantistes. Ça avait déjà été le cas il y a 2 ans avec un score de 44%. Là, avec 47%, ils ont le sentiment qu'une dynamique s'enclenche et que la prochaine fois pourrait être la bonne. Ils abordent donc les discussions à venir avec l'État français et les loyalistes en position de force, ainsi que l'exprimait tout à l'heure sur France Info TV le porte-parole indépendantiste Charles Wachetine.
Pour nous, si le dialogue demain doit se renouer, nous disons qu'il doit porter sur ce qui est l'objet même de l'accord, c'est-à-dire l'accession du pays à la pleine souveraineté, parce que c'est ça.
On sent bien que les discussions à venir vont être difficiles, car dans le camp loyaliste, cette idée qu'on serait sur le chemin vers l'indépendance n'est pas envisageable. Thierry Santa est l'un des leaders loyalistes et président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
Il faut que les responsables indépendantistes que vous êtes preniez en considération la volonté exprimée à 2 reprises par la population calédonienne en ayant à l'esprit le choix de la majorité des Calédoniens de rester français. Parce que c'est comme ça qu'on arrivera à discuter de manière apaisée, tous avec une vraie perspective d'avenir.
Les perspectives pour la suite ont été dressées par Emmanuel Macron, qui a pris la parole en début d'après-midi. Il va falloir envisager tous les scénarios, a prévenu le président de la République, et il a appelé chaque camp à préparer l'avenir.
Il nous revient tous ensemble de préparer cet avenir. Nous avons devant nous 2 années pour dialoguer et imaginer l'avenir, et pas seulement l'avenir institutionnel.
Après ce second référendum, il reste la possibilité d'en organiser un troisième d'ici 2022. Mais après ça, rien n'est prévu par les traités. Et si aucun dialogue n'est engagé, si aucun nouvel accord ne se dessine, on pourrait assister à une remontée des tensions entre les 2 camps, indépendantistes et loyalistes, comme au début des années 80.
Merci à vous Stéphane Robert. La question n'est pas de savoir quand, mais combien de temps et sous quelles conditions. Il y a 3 jours, Olivier Véran, le ministre de la Santé, annonçait que Paris et sa petite couronne seraient susceptibles de passer en écarlate sur la carte du coronavirus. Donc en alerte maximale avec fermeture des bars et des restaurants, comme à Marseille et Aix-en-Provence. Un cauchemar pour les professionnels du secteur après un été souffreteux, d'où leur proposition pour éviter le pire. C'est un reportage dans le 15e arrondissement de Paris de Soisigbourg.
Il a une chemise blanche, un veston noir sur le dos, des plateaux remplis de croque-monsieur et de frites dans les mains. Patrick est plutôt nerveux.
Bien sûr que je suis inquiet. Tous les restaurateurs vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, donc bien sûr qu'on est inquiet.
Tous ont en mémoire la fermeture brutale au moment du confinement et ils craignent de ne pas avoir le temps de s'organiser. Samuel gère un restaurant rue de la Convention.
Qu'est-ce qu'on fait de notre marchandise? Il y a de la perte, forcément. C'est une mauvaise organisation à ce niveau-là. Il y a une logique qui n'est pas très logique.
Les organisations patronales négocient une ouverture sous un protocole strict avec le gouvernement. Prise de température à l'entrée, registre des coordonnées des clients, limitation du nombre de personnes à table, 8 au lieu de 10. Mais pour Xavier de Namur, propriétaire de 5 restaurants à Paris, ça n'est pas adapté.
Il n'est pas pas réalisable en soi. Prise de température sert à rien. Le carnet, c'est seulement sur le volontariat. Et 8, c'est trop. Donc moi, je serais pour passer à 4 ou 6.
Le chef étoilé Thierry Marx se demande, lui, une meilleure inspection de la part des autorités sur le principe du pollueur-payeur.
Contrôlez-nous, venez voir si cette profession est sérieuse ou pas. Et c'est pas en nous infantilisant qu'on va résoudre le problème.
Jean Castex devra trancher la question après avoir reçu l'avis du Haut Conseil de Santé publique, aujourd'hui ou demain.
C'est peut-être un des derniers rebondissements du feuilleton économique et financier de la rentrée. Le géant de l'eau, Veolia, s'est engagé ce dimanche à ne pas lancer d'OPA hostile sur son concurrent Suez, respectant ainsi les exigences d'un autre acteur, Engie. Cela ouvre normalement la voie au rachat par Veolia de près des 30% de parts détenues par Engie dans Suez. Mais, bonsoir Thomas Giraudeau.
Bonsoir Mathieu.
Mais ce n'est pas si simple, car Suez a annoncé aussi cet après-midi qu'il rejetait la proposition de Veolia.
Oui, pour le conseil d'administration de Suez, cette nouvelle offre ne change rien. Elle reste hostile, selon les mots du président de Suez dans une lettre adressée au PDG de Veolia cet après-midi. Preuve que rien n'a avancé, les relations ne se sont pas améliorées entre Veolia et Suez, contrairement à ce que disait le premier en fin de semaine. Retour à la case départ, ou presque. Et Engie dans tout cela, eh bien sur le papier, rien ne l'empêche de vendre à Veolia ses 29,99% du capital qu'il détient dans Suez, mais ça n'arrangerait clairement pas Veolia si cela se passe dans le cadre d'une OPA hostile, c'est-à-dire sans l'accord de Suez, car dans ce cas, Veolia ne pourrait pas faire grand-chose de ce rachat, de cette participation, 3,4 milliards d'euros tout de même, avant un long moment.
Alors, et pourquoi tout cela, Thomas ?
Mais parce que rappelez-vous, il y a 15 jours, Suez a transféré sa filiale Eau France dans une fondation néerlandaise, une manœuvre qui empêche normalement Veolia de revendre cette filiale à court terme, sauf qu'il est obligé de le faire pour ne pas se retrouver en situation de monopole sur le secteur de l'eau. Monopole interdit, car qui dit OPA de Veolia sur Suez sans revente de la filière eau de Suez dit création d'un géant qui dominerait trop largement ce secteur de l'eau. Bref, Suez a semble-t-il bloqué la situation, gagné du temps pour pouvoir étoffer une offre concurrente à celle de Veolia, pouvoir la proposer à Engie et peut-être l'emporter. Cette offre concurrente pourrait d'ailleurs être dévoilée ce soir à la veille d'un conseil d'administration peut-être décisif chez Engie. L'entreprise devrait décider si, oui ou non, elle accepte l'une ou l'autre des propositions de rachat.
Merci à vous Thomas Giraudeau. À Minsk, une marche dédiée aux prisonniers politiques a rassemblé cet après-midi plus de 100 000 personnes. Et comme depuis le 9 août dernier et la réélection controversée d'Alexandre Loukachenko, les forces anti-émeutes appuyées par des blindés ont procédé à des centaines d'arrestations. La guerre au Haut-Karabakh et au-delà, Bakou prétend que les forces arméniennes ont bombardé Genji, la deuxième ville azerbaïdjanaise, et menacent l'Arménie de représailles. Sur les fronts du territoire séparatiste, les combats redoublent d'intensité. Nous avons sollicité à cet égard Zahama Armatouni, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge à Erevan.
On observe une escalade, une aggravation du conflit, d'abord par le nombre de civils blessés, notamment des enfants, côté arménien et côté azerbaïdjanais. Nous avons également reçu des informations sur de nombreux civils qui tentent de se mettre à l'abri. Des centaines de maisons et d'infrastructures clés, des hôpitaux, des écoles ont été détruits par des tirs d'artillerie lourde et les personnes qui restent dans ces bâtiments risquent d'être victimes des engins qui n'ont pas encore explosé. Nous nous inquiétons aussi beaucoup du sort des familles avec des enfants en bas âge. Elles s'enferment dans des caves, des sous-sols froids, non chauffés, depuis des jours et des nuits, pour tenter d'échapper au bombardement. On voit aussi l'impact du conflit sur le système de santé local. Il y a de grands besoins de dons de sang. La région du Haut-Karabakh manque de matériel médicaux. Nous sommes très inquiets que ce conflit ait des conséquences sanitaires graves, pas seulement celles d'un conflit armé, mais aussi sur l'évolution du nombre de cas de Covid dans la région. Les civils se réfugient dans des abris de fortune pendant des heures et s'exposent ainsi au risque de contamination.
Zahra Armatouni, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge à Erevan. Deux jours après le déluge qui a ravagé la vallée de la Roya, les secours tentent toujours de dresser le bilan et des victimes et des dégâts matériels. C'est dans le village partiellement détruit de Breil-sur-Roya que les pompiers se sont basés. C'est de là qu'ils mènent les reconnaissances. Tant de villages sont encore coupés du monde. Depuis vendredi, la conseillère municipale de Tende, Élise Ferrari, est bloquée à Breil, très inquiète pour les villages de la vallée amont, notamment le sien et les hameaux alentours.
Tout est urgent. Il est urgent de recenser la population, il est urgent de faire face aux problèmes sanitaires, l'alimentation en eau, la communication, les soins. Les pilotes d'hélico ont eu la gentillesse de faire passer des messages. Et donc, du coup, on sait que nos populations sont solidaires, que les gens sont unis et qu'ils font face. On s'est mis à plusieurs, en fait, hier sur Facebook, à faire de l'image par image et de dire « mais tu as vu, ça c'est ça, ça c'est ça ». Donc on sait que le hameau de Vievola est isolé, que le hameau de Casterino est isolé. Granit, je sais pas. Saint-Dalmas, Stand, après, malheureusement, on n'a aucun état sur les routes. Le commandant de la gendarmerie disait tout à l'heure que tout était arraché, qu'il y avait, la situation était catastrophique, et il a eu l'air de me dire ça de manière à ce que je me prépare à ce que j'allais voir. En fin de compte, que tout ce qui était dans le lit de la rivière avait été emporté. On m'a dit, je ne sais pas si des habitations sont parties. J'ai bien peur que ce soit le cas. Évaluer, c'est impossible.
Voilà des propos recueillis par Emmanuel Grabet. La météo de demain, en quelques mots, journée pluvieuse sur la majeure partie du pays où trois départements, la Manche, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, sont en vigilance orange pour pluie-inondation. Ce journal était préparé avec Caroline Beneteau.